Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Christophe Jubien pour vous accueillir sur la route inconnue kilomètre 3. Il y a 2 semaines, la tête d'affiche de l'émission était un tout jeune homme, Samuel Steiner, dont nous avons présenté le dernier livre, Seul le bleu reste, aux éditions Citron Gare. Aujourd'hui, c'est une jeune poète qui est à l'honneur, Estelle Fenzi, auteure d'un très beau livre publié aux éditions Henry, L'entaille et la couture, dont je vous lirai des passages en seconde partie d'émission, juste avant les chroniques de nos amis Jacques Morin, Jean Antonini et Jean-Claude Touzeil. Je vous rappelle que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue de poésie Décharge qu'on ne présente plus et dont le dernier numéro a été salué par Le Monde dans sa version numérique, je le précise pour l'anecdote. Je me permettrai de vous lire tout à l'heure quelques poèmes extraits du dernier numéro de Décharge d'ailleurs. Il s'agira de poèmes de François de Cornière, un auteur que nous aimons tout particulièrement à Radio Grand Ciel. Estelle Fenzi est née le 15 janvier 1969. Elle a vécu à Lille, à Brest et aujourd'hui, aux dernières nouvelles en tout cas, elle habite en Arles où elle enseigne dans un collège. Elle a publié de nombreux poèmes dans des revues et puis, pas mal de recueils ces derniers temps, puisqu'il y a eu trois livres en 2015 et au moins un en 2016, peut-être deux. Elle nous dira si Eldorado Lampedusa a été bien sorti. Alors, elle nous revient, en tout cas Estelle, ces jours-ci avec « L'entaille et la couture » publié aux éditions Henry. C'est un petit ouvrage sur l'amour dans son expression la plus physique. Nous parlerons bien entendu de ce livre, mais avant cela, j'aimerais que nous fassions plus ample connaissance. Estelle, bonjour.
Bonjour Christophe.
Une question rituelle. Comment l'aventure poétique a-t-elle commencé pour vous? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur?
Oui. Il y a eu un élément déclencheur, effectivement. Disons qu'en 2013, j'ai eu un souci de santé relativement important qui m'a obligée à cesser mon activité d'enseignante pendant plusieurs mois. J'ai eu besoin d'exprimer ce que j'avais traversé en écrivant. Et très naturellement, c'est la poésie qui s'est imposée comme mode d'expression. Voilà, donc j'ai écrit quelques petits poèmes, vraiment sans la moindre idée derrière la tête. Et puis mon époux les a lus et il m'a dit « mais c'est pas mal, tu devrais essayer de faire quelque chose avec ça ». Bon, j'avais le temps, j'avais la flamme et puis de l'espoir. Alors je me suis dit « bon, je vais essayer ». Le format est très court, il y avait 16 poèmes. Je les ai envoyés à Europe, donc quand même, j'avais mis la barre un peu haut quand même. Mais voilà, donc je les ai envoyés et Jean-Baptiste Parra m'a contacté vraiment dans les quelques jours qui ont suivi pour me proposer de les publier. Alors évidemment, ça a été une joie intense et j'ai pris ça comme un très bel encouragement. J'ai continué ensuite, voilà. Ouais.
Mais dites-moi, étiez-vous déjà une lectrice de poésie?
J'ai été une grande lectrice de beaucoup de choses à l'adolescence et relativement jeune. Ensuite, la vie a pris le pas, j'ai lu moins. Mais je n'étais pas une lectrice de poésie absolue, c'est-à-dire que je lisais un peu toutes sortes de choses. Voilà, c'était pas uniquement la poésie. Aujourd'hui, par contre, j'ai tendance à lire de la poésie et surtout de la poésie, oui. Par contre.
Dites-moi, mais moi je suis très surpris par votre réponse. Vous êtes, vous êtes une enfant prodige de la poésie contemporaine.
Je ne sais pas du tout. Je pense que, en fait, les choses devaient être en moi depuis longtemps parce que j'ai le souvenir d'un cadeau de Noël demandé à mes parents alors que je n'avais même pas 10 ans. J'avais demandé à ce qu'on m'offre une, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces machines à écrire qui s'appelaient La Petite. Voilà, des petites machines à écrire. Et en fait, dans mon idée, ce n'était pas pour jouer à la secrétaire. C'était vraiment pour écrire des choses. Donc j'avais, je pense, quelque chose en moi. Après l'adolescence, bon là, c'est pas très original, hein. J'ai écrit des poèmes à l'adolescence. Voilà, mais ensuite j'ai eu un blanc ou un noir, je sais pas comment dire, près de 25 ans, même plus. Et je m'y suis vraiment remise, mais ça a été, comment dire, je pense que ça a été une explosion, vraiment. Je pense que c'était là et qu'il manquait peut-être la flamme qui allume la mèche, quoi. C'est vraiment ça, je pense.
Et pour vous, ça a été la maladie?
Oui, et puis oui, ça a été ça. Et puis il y a des choses assez désagréables et assez tragiques qui se sont enchaînées, hein, qui m'ont poussée à extérioriser. Au départ, ça a été vraiment ça. Oui, voilà.
Alors, je le disais, vous avez donc beaucoup publié 2 ans après votre découverte finalement de l'écriture poétique, ce qui est assez extraordinaire. Alors, est-ce que vous vous sentez à présent en pleine possession de vos moyens, prête à aborder une grande variété de sujets, ce qui est déjà d'ailleurs un peu le cas, on le verra tout à l'heure, ou au
Oui.
contraire, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir à chaque fois à repartir de zéro, avec l'angoisse de la page blanche qui va avec, évidemment?
Ah oui, comment dire? Oui, je doute quand même. Je suis pas du tout dans la certitude. En revanche, quand l'envie est là, je suis capable de travailler beaucoup, d'essayer de m'accorder le temps pour y arriver, pour rassembler, oui, le temps, les mots et arriver à écrire. Là, à ce moment-là, je suis très concentrée et quand le sujet est vraiment en moi, je peux écrire plusieurs poèmes sur une même journée. Ça, c'est oui, c'est possible.
Mais ça m'intéresse de savoir comment vous travaillez. Il faut vraiment qu'il y ait la petite chose en tête, ou est-ce que carrément, bah, vous vous asseyez, vous dites je vais écrire un poème, ou je sens qu'il y a quelque chose qui vient, comment ça se passe?
Alors ça dépend des textes, vraiment. Il y a des textes qui sont venus, mais vraiment comme des jaillissements et voilà. Alors je crois pas du tout, hein. Je veux dire aux choses qui descendent du ciel et voilà l'inspiration qui descend du ciel, ça non. Hein. Je crois quand même beaucoup au travail, mais effectivement il y a des textes qui sont sortis de manière nécessaire sous l'impulsion, vraiment. Et puis d'autres qui sont partis d'envie d'écrire sur des sujets, parce que j'avais été bouleversée ou touchée par quelque chose. Tout à l'heure, vous aviez évoqué Eldorado dans Lampedusa, on
Oui.
en reparlera si vous voulez après, mais ou les poèmes western sur lesquels je travaille actuellement, par exemple, qui sont nés d'une exposition de photographies que j'ai vue dans le cadre des rencontres d'Arles, des photographies de Bernard Plossu, que j'ai trouvées très belles et qui m'ont, qui, je me suis dit, je vais écrire là-dessus. Voilà, c'est comme ça vraiment. Et donc, je fais des recherches, je regarde des images, je m'imprègne, et puis à partir de là, j'écris.
Alors que
Voilà.
l'entaille et la couture, par contre, c'est sorti comme ça d'un geste, c'est plus fort que vous.
Ah oui, alors l'entaille, alors c'est tout le contraire des poèmes
Ouais.
western, l'entaille et la couture. C'est-à-dire que l'entaille et la couture fait suite à deux recueils qui sont tous les deux destinés à dédié à mon père et qui sont des recueils de douleurs absolues, vraiment. Le Chute, le monstre d'or qui est sorti à la part commune, que j'ai écrit encore du vivant de mon père alors qu'il était malade et vraiment dont l'objectif était de lui apporter un soutien dans le combat, que d'ailleurs j'ai eu la chance de pouvoir lui faire lire. Le deuxième qui s'appelle Sang. Bon, tout est dit dans le titre, hein, déjà. Voilà, qui a été publié aux éditions La Porte, est aussi un recueil dur, très violent et qui, comment dirais-je, qui évoque vraiment les premiers instants après la mort et comment on redémarre et comment on continue quand on a quelqu'un auquel on tient à ce point qui disparaît. Voilà. Donc après ces deux recueils-là, je n'en pouvais plus de la douleur. J'avais envie, j'avais un besoin et vraiment une nécessité d'aborder la vie vraiment dans ce qu'elle peut avoir de plus beau. Donc pour moi, c'est l'amour et l'écriture. Voilà.
J'ai vu aussi, enfin j'ai lu de votre part de très beaux poèmes sur les relations avec l'enfant qui a fait de vous une mère, qui
Oui.
sont là, par contre, vraiment sous l'angle de la douceur. Ça vous a fait du bien d'écrire ces poèmes aussi?
Oui, énormément. Et ces poèmes de la maternité, ce sont ceux de Terre à Ciel dont vous parlez?
Tout à fait.
Oui. Alors, c'est un ensemble de 22 textes que j'ai écrits de manière séparée. Il n'y avait pas de calcul. C'est-à-dire, je ne me suis pas dit, j'ai envie d'écrire sur ça. C'est quelque chose qui est venu aussi naturellement, mais dans la foulée, en fait, de l'entaille et la couture, juste après. Voilà, donc il y a vraiment eu deux, comment dirais-je, deux versants, si j'ose dire. L'impulsion d'écriture, finalement, qui est née de choses très dures, et puis ensuite une espèce de renversement qui m'a poussée à écrire sur des choses beaucoup plus lumineuses.
Ouais. Alors prenons l'entaille et la couture. Dans votre
Oui.
livre, c'est l'amante qui s'adresse à son amant, qui lui parle de
Oui.
la montée du désir. Alors sans équivoque, mais sans aucune trace de vulgarité non plus, est-ce que ça a été facile de trouver le ton juste? Est-ce que ça vous a posé des problèmes?
Non.
Pas du tout.
Non, non, pas du tout. Il était évident pour moi qu'il ne s'agissait pas d'être cru. Il s'agissait de parler de la façon dont moi je ressens l'amour
Oui.
et que ça ne pouvait pas être autrement que comme je l'ai écrit. Donc je n'ai pas cherché le vocabulaire que j'ai employé.
Ouais.
C'est comme ça que.
La langue est
Enfin,
venue
je
comme
pense
ça.
que c'est.
Ouais.
Oui, voilà, c'est venu comme ça. Je pense que c'est vraiment le recueil qui me ressemble. Celui-là et la maternité. Enfin, vraiment. Oui, ce sont deux textes qui me ressemblent beaucoup, je crois.
Ouais. Eh bien, en vous lisant, je me disais que justement, rien ne vaut peut-être la parole poétique pour décrire, si j'ose dire, de l'intérieur, l'acte sexuel, l'effet que ça fait de faire
Oui.
l'amour.
Disons que les images seraient immédiatement vulgaires. Les mots, il faut les choisir. Mais je pense que j'en parle, je pense, sur le terrain de la sensibilité
Ouais.
et sur le terrain du partage, beaucoup. C'est-à-dire que je ne pense pas, je ne me suis pas amusée à regarder, hein, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de poèmes où il n'y ait que du jeu. Effectivement, il y a du tu, il y a du nous. C'est un échange. C'est un échange.
Et puis la langue et les paroles ont aussi leur importance
Oui.
dans l'acte amoureux. Ils peuvent mettre le feu au désir, je dirais, de même que la lecture d'un poème peut mettre le feu à une journée.
Oui.
Hein, d'ailleurs, vous écrivez page 15, écrire, dit-elle, jouir, dit-il, mon amour, c'est un peu la même chose.
Exactement. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'écriture et l'amour, l'acte d'amour, pour moi, il y a énormément à voir. Enfin, dans les deux cas, il y a l'approche, il y a les caresses, il y a du jaillissement, il y a quelque chose qui est enveloppant, qui est là. Enfin, pour moi, ce sont vraiment. On est sur deux territoires qui non seulement se jouxtent, mais parfois aussi s'entrecroisent, s'entremêlent.
Oui.
Oui. Parce que pour moi, c'est vivant. Voilà. Dans les deux cas, on est dans la vie. Je pense que chute et sang, tout en étant des textes sombres et durs, ce sont des textes vivants et qui, malgré tout, tournent vers la vie. Voilà, et je pense que l'entaille et la couture, bien sûr, bien davantage encore. Oui.
Ouais. Le rapport comme ça de l'amour à la langue, je cite un autre passage de votre livre, c'est page 24, vous écrivez « Mon corps est crayonné, sa mémoire
Oui.
langagière, tu
Oui.
le lis doucement, là est le poème ». Quelle métaphore extraordinaire!
Oui, parce qu'un corps, qui bouge, un corps qui évolue avec le temps, qui a connu des maternités, qui peut avoir connu des accidents de la vie, c'est un corps qui raconte une histoire. Et voilà, et je pense que quand on est vraiment en amour avec quelqu'un et qu'on raconte cette histoire en se montrant tel qu'on est, sans chercher à tricher, c'est la sincérité du poème, c'est pareil. C'est la vérité du poème.
Alors, je voudrais, avant d'ouvrir votre livre pour lire quelques poèmes à nos auditeurs, qu'on parle peut-être de Eldorado, Lampedusa.
Oui.
Donc, comment
Alors,
est né ce livre très exactement, en fait?
Alors, ce livre-là est encore à naître, en fait. Il a connu des aventures dramatiques, si j'ose dire. Il devait être au départ publié par les éditions La Part Commune, qui ont connu des difficultés importantes en termes de diffusion, etc. Et donc Mireille Lacour, l'éditrice, m'a dit « Écoute, je ne peux pas te promettre d'édition à l'heure actuelle, propose ton texte ailleurs ». Donc elle m'a rendu mon texte, en fait. Et donc ce texte est encore à naître. Ceci dit, il est question qu'il soit publié par les éditions Janus. Je suis en train de monter un projet avec Éléonore Jam, la jeune éditrice, et cela deviendrait un texte, a priori, en plusieurs langues. C'est-à-dire qu'il serait, dès le départ, vraisemblablement présenté donc en français, mais aussi en italien et en arabe, a priori.
Ouais.
Voilà, donc c'est encore en projet. Alors ce texte-là, a priori, qui ne s'appellera plus donc Eldorado Lampedusa non plus, mais Solo Andata, qui signifie « aller simple » en italien. C'est un texte qui est né du choc énorme que j'ai ressenti lorsque les premières images des premiers naufrages dont on est vraiment parlé en octobre 2013 sont arrivées jusqu'à nous. Là, on a vraiment eu les premières images avant que cela devienne malheureusement presque quotidien. Et ça a été un choc énorme. Alors, il y a eu ça. Et un concours de circonstances a fait que j'ai eu l'occasion de voir une exposition photographique, encore une fois les photos, vous voyez, de Patrick Zachmann au MUCEM à Marseille, qui s'appelle Mare Mater, et dans lesquelles il y a vraiment des images extraordinaires, vraiment. Donc ensuite, j'ai regardé des vidéos, je me suis renseignée, parce que il y a toujours la question de la décence dans ce genre de sujet. Et de la légitimité, pardon, à écrire sur ce genre de thème. Mais je pars du principe que quand on a vraiment la sincérité du thème, on peut écrire sur tout. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faut absolument avoir vécu certaines choses pour en parler. Et ce serait très, très stérilisant. Il y aurait beaucoup d'artistes qui ne feraient plus rien dans ce cas-là. Donc je me suis pas mis de barrière. Je me suis pas dit non, je ne peux pas parler de ça. Voilà. Donc ce texte est encore à venir.
À venir. Donc le ton est plutôt à l'indignation, au chagrin, à la révolte. Aux trois peut-être.
Oui, peut-être un peu aux trois. Peut-être un peu aux trois. Puis il y a une espèce de désespérance aussi, parce que si le titre initial c'était Eldorado Lampedusa, c'est quand même pour dire que il y a un espoir d'Eldorado et mais bon, l'Eldorado, vous savez ce que c'est. Voilà.
Estelle, un grand merci à vous. Nous arrivons au terme de cet entretien. Je vous remercie de votre disponibilité. On va laisser passer un peu de musique avant d'ouvrir votre beau livre « L'entaille et la couture » publié aux éditions Henry. C'est un des titres phares de la rentrée poétique 2016. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Christophe, de m'avoir accueilli.
La première fois, un oiseau a battu des ailes dans mon ventre, a disparu longtemps. Il a fallu des années, toute une enfance, pour le présent de ton visage. Le temps a écarté ses mâchoires, tu as fait feu de ton bois dans ma maison. Je te vois nu sous les vêtements. Il est l'heure de dévêtir la langue, le corps fendu, le noyau dans le jus des mots, le cœur touché, pas le corps, non, le corps sous les vêtements. Ta main douce à plat posé, calme, docile en cet instant, je la caresse longtemps, attentive à penser qu'elle peut tout ouvrir. Je n'ai que ma nudité sur les épaules, une étole de peu, elle suffira bien, quoi d'autre pour réchauffer la nuit? Tu écris sur la lumière, moi au noir de l'encre. Mélangeons-nous, créons couleur. Avec le soir, toutes tes mains relèvent l'ombre, allongée par terre, et le cri à genoux dans mon corps. Chair toute crue de l'amour, saisie de la joie, ta voix se désosse, change de couleur, plus bleue, je crois. Tu dis, je rayonne,
brûle. Tu tisonnes les mots, tentative combustible à mon oreille. Tu pyromanes alors, je rayonne encore plus. Mes mains rient légères, j'ai oublié mon ombre. Ta poitrine, c'est l'instant. Et moi si petite, femme de dos, mes épaules contre, où tes bras me ceinturent. Les accents, tes bras. Les poings, tes genoux. Et ton sexe, virgule, où s'attarder vraiment. Ponctuation vivante, repos du langage sur ma bouche. Écrire, dit-elle. Jouir, dit-il. Mon amour, c'est un peu la même chose. Décembre, mais doux. Tu empoignes mes hanches. Comme le froid quand il vient, tu entres partout. L'hiver est masculin. On peut dire fruit, sucre, enveloppe lisse. On peut au bord, toi, ventre, sein, cuisse, langue, lèvres, toute leur douceur profonde. J'aime ton exactitude et comme tu jettes les mots sur le feu. Le nez sous ton aisselle, comme une petite bête. Mes mains partent en reconnaissance. L'amour qu'elles font interroge, répond. M'aimes-tu vraiment? Je le vois, oui, au frisson commencé dans tes yeux. Porte juste fermée. L'appui manque, mais tu me traverses debout, tout de suite. Je ne quitte pas ton regard. J'attends qu'il s'ouvre pour être à toi, dans son silence. Là où se glisse l'amour, je faufile ma bouche. Et un poème. Tu ne dis pas non, et t'es l'emportement des mots dans ton attente de moi. Tes mains sur mes poignets, chevilles chevillées à ton corps, merveille, comme plus que tenu par ton regard d'abord, et mieux. Je suis bien libre de crier. Les dentelles, mon amour, pourquoi pas? Après tout, elles ne voilent que les yeux. Si nus, toi et moi, les baisers resteront, pas les mots solubles dans le noir et la pluie. À mesure que l'encre déborde, la parole se répand, jugulaire, se reprend, trempée de salive et d'averse. Ventre vie, paume lignée, cicatrice accident, tu les couvres de baisers. Et les belles blessures. Mon corps est crayonné, sa mémoire langagière, tu le lis doucement. Là est le poème. Voilà, c'était des extraits de L'entaille et la couture d'Estelle Fenzi, publié aux éditions Henri. Je vais à présent vous lire, avant d'écouter un peu de jazz, je vais vous lire des extraits d'un autre ensemble de Estelle Fenzi paru sur le site de notre autre partenaire, puisque le premier est la Revue des Charges, le second est le site de Cécile Guivarch, Terrassiel, et dans Terrassiel, j'ai pu récolter ces poèmes sur la maternité d'Estelle Fenzi. Je vais vous en lire quelques extraits à présent. Je compte à partir de 28. Traverse le centre des nuits. Chaque fois, ajoute. Un jour de sang manquant. Faut-il tracer rectangle dans le ciel? Faire parler le vol des oiseaux? Silence. Je vois au-delà de l'avenir. Un oracle de certitude ruisselle de ma bouche, creuse une brèche heureuse. Je compte à rebours 9 cycles de lune entre mes cuisses. Beaucoup de sang manquant. Je suis mère. D'un petit habitant de l'absence, je suis mère. Je suis première dans l'aube. Enfant se lève la figure en désordre. Mon regard lisse les joues, les traces d'oreiller. Arc-bouté au petit chantier des jours, je prépare un ciment armé d'amour. J'ai creusé les fondations dans des bouquets de trèfles. Je suis mère. La journée peut commencer. J'excelle dans l'attente, ma première cellule. J'aimais plus d'une fois au monde. J'excelle dans la veille. La quiétude de la maison, c'est moi. La passante qui reste, c'est moi. L'aile de la lumière, le temps nu tutoyé, moi encore. La mémoire, l'urgence à combler faim et soif, à guérir les genoux, essuyer les bouches, et le reste aussi, oui. On m'enlace, désenlace au chevet des jours gris. Des contes à entrer dans la nuit sans frapper. Une petite fille est assise dans mon œil. Miroir, je la vois silencieuse, le regard plein de mots. Elle n'a pas de chagrin, vit lentement, c'est tout. Les mains serrées sur son ventre qui n'a jamais saigné. Je suis mère. Une petite fille dans mon œil. Je suis mère. Parfois je me dilue dans les eaux de lessive, transparente dans le paysage. Devant la glace, c'est tout mon corps qui recule. Je ne me ressemble plus. Détourne les yeux, cherche un rivage où les poser pour exister. Enfant rentre de l'école, portée heureuse, sautillante, bouche débordant de fruits, jus sucré au menton. De leurs griffes de chaton ou des framboisiers du jardin, je ne sais ce qui accroche mes jupons. Je suis mère. Leur joie vraie de m'étreindre me replace au centre de moi-même. Un enfant clair est assis sur une balançoire. Chaque jour bascule le suivant, comme un petit domino. L'enfant bascule avec lui. Un matin, ses empreintes aux miennes se confondent. Penchée, la joue me voilà contre ses cheveux. Il me serre, c'est la force de l'homme. Je tends l'oreille, appelle sa voix de petit garçon. C'est une plus grave qui me répond. Je coupe patiemment la clé de la maison à sa poche béante. Je sais sa fin de découvrir le monde, ses dents blanches, sa grâce à vivre fort. Je sais aussi l'abri, l'asile, l'envol, pas l'abandon. Je suis mère d'un beau garçon qui grandit. Je suis mère. C'était un extrait de Nuages de Django Reinhardt, repris et de quelle manière par Barney Whelan. À présent, c'est rituel, tous les mois, la revue des revues par notre ami Jacques Morin, directeur de publication de la revue des charges.
Revue du mois, audio numéro 31, c'est Gare Maritime, 2016. Annuel, l'anthologie écrite et sonore de poésie contemporaine tombe pile à l'heure. Elle propose chaque fois une petite trentaine de poètes et quelques éditeurs. Toujours la même segmentation, une première page, photo de l'auteur et présentation par un membre de la Maison de la Poésie de Nantes, parfois plus dense que les deux pages suivantes du poète en question. Jamais d'édito au final, puisque le millésime fait office de réactualisation. Alors on pioche. Emmanuel Pirère, en ouverture, prix Médicis 2012, que Descharges avait eu le plaisir de publier en janvier 1998, avant son ascension fulgurante. Jody Pou, qui écrit à la fois en français et en anglais, une langue préfigurant le franglais, prévisible, intraduisible par le fait. Yannick Torlini, notre récent polder, qui se coltine sans trêve avec sa langue, ce phénomène qui creuse la phrase, qui creuse le désastre. C'est une citation faite par Roland Cornwhite dans la présentation, et c'est extrait dans le texte qui suit de tous les désastres de ta vie, tu sais, tous les désastres de tous les désastres, l'écriture seulement l'écriture, désastre de ta vie, tous ces désastres seulement l'écriture. Théâtralité chez Philippe Malone, poursuivre Nicolas Tardy, à la fois auteur et éditeur avec Contremur, 24 images par phrase écrites sur lui, Sophie Gelucas. Et défendant la micro-édition, il s'exclame « La très grosse édition est assez simple à cerner, elle publie exclusivement de la merde. » Ossirine Bosquet, attachante, dont l'œuvre est clairement présentée par Sophie Gelucas à nouveau. Puis quelques poids lourds, Michel Deguy, « Soi-même, on est un beefsteak traçable. » Claude Chambard, « Parfois, il n'y a plus de cendre dans l'urne. » Pierre Bergougnou, pour qui la hantise de l'exactitude est un barrage à la poésie. Et les fuseaux sombres enchâssés dans le cristal liquide, ce sont des poissons. Puis, Éric Caravaca, dernier télégramme, qui sait défendre avec enthousiasme et passion ses auteurs, Dominique Kellen, j'écris pour combler un manque tout en étant conscient que les natures différentes du manque et du matériau, l'inadéquation pour le combler, rendent l'opération impossible. Pierre Guéry, je suis l'homme de fer équarri par les chevilles et les écrous. Jean-Marie Glaise, grand timonier de la revue Gnoc. Bernard Chambaz, aux multiples casquettes comme le présente Alain Girard Dodon. Historien, globetrotter, fou de vélo, Tour de France, Giro et Vuelta. Romancier et poète, bien sûr. Autant penser la poésie comme raide dans l'inarticulé. Christian Doumet, mis à l'honneur récemment dans la revue Nu. Olivier Domergue, que de chemin parcouru depuis le choix de Descharges en septembre 1996. Domaine étranger, l'haïtien James Noël et sa migration des murs. Les deux poètes inus, Joséphine Bacon et Natacha Canapé-Fontaine. La poésie taïwanaise avec Qualis Morgan et Liao Mieshuan. Tu me demandes ce qu'est la liberté, je lève les yeux vers le ciel clos. La russe Anna Glazova. Pour clore, les éditions Contre à main et la revue Groupon. Susciter et partager la création. Reste le CD à écouter. Gare Maritime reste attentive à l'apparition de toutes les nouvelles formes poétiques qui naissent sans discontinuer dans le terreau créatif français et international. Gare Maritime 2016, 17 €, 2 rue des Carmes, 44 000 Nantes. À la prochaine fois.
Un grand merci à Jacques Morin que nous retrouverons dans 4 semaines pour une nouvelle revue des revues. À propos de revues, moi je tiens à signaler le travail extraordinaire qui est fourni justement par Jacques Morin, Claude Verset et tous les chroniqueurs de la revue des charges, revue trimestrielle que vraiment je vous conseille. Je vous conseille de vous y abonner, vous aurez donc 4 numéros par an. Et 4 petits recueils publiés par la revue, 4 petits recueils de jeunes auteurs très prometteurs. Concernant la livraison de ce trimestre, le Descharges numéro 171, vous y trouverez entre autres des poèmes de François de Cornière que nous aimons beaucoup ici et je souhaitais tout simplement eh bien, vous lire en avant-première deux poèmes de cette livraison. Le premier s'intitule « On ne la voit presque plus ». J'avais senti l'air chaud qui gonflait le papier et j'avais lâché. La lanterne s'était envolée haut, très haut, dans le ciel plein d'étoiles. Nous l'avions suivie, debout, sans parler, devant la maison. J'avais pensé alors aux lanternes de ma vie, celles qui, par centaines, brillaient après minuit dans le ciel du lagon, celles qu'un ami magicien avait fait partir en ville pour nos petits-enfants, ou cette autre de pleine lune sur la plage en hiver qui s'était enflammée entre nous, s'envolée. Une voix avait fini par dire « On ne la voit presque plus, vous la voyez encore ?» Et les années perdues avaient pu continuer leur chemin de lanterne invisible là-haut, dans la nuit. Coureur de destin. L'homme attendait au volant. Il avait coupé la radio, pris le journal dans son sac, essayé de lire un article. Il avait replié le journal. Il pleuvait fort maintenant. L'homme entendait les gouttes sur le toit de la voiture. Un bruit ancien qui lui rappelait des moments de sa vie. Sur le pare-brise, les gouttes suivaient des chemins en descente, comme des petits coureurs de destin qui s'arrêtaient d'un coup ou qui se précipitaient. L'homme les regardait. La lumière verte clignotante de la pharmacie à côté avait presque disparu. La buée recouvrait toutes les vitres. Je n'ai pas été trop longue. Il avait tourné la tête. Elle était trempée. L'homme avait mis le contact, poussé la ventilation à fond. Il lui avait répondu non. Et à présent, une voix nouvelle, celle de Claire Calfon, dans Le Choix de Décharge. Tous les trimestres, la revue Décharge publie des poèmes que de jeunes auteurs lui envoient. Et j'ai sélectionné deux poèmes sous le titre « Dire demain » de Claire Calfon, quelqu'un dont nous entendrons à nouveau parler, j'en suis sûr. Quoi de plus mystérieux qu'un jour après l'autre, nouveau, comme un sol de cuisine lavé à grande eau, quand dormir est une manière de rester réveillé, qu'entre les bleus de ciel et de mer la couture est invisible, qu'entre hier et demain la terre fait son possible. Le car monte une route en lacet. J'entends la voix du chauffeur et ces mots qui n'arrivent pas jusqu'à moi ligotés de sommeil. Je sais qu'il y a du soleil et pourtant la pluie martèle la carrosserie, alors je resserre les paupières comme les dernières lattes du store avant l'orage. J'intercepte ma mère et lui dis « C'est pas facile de rêver de toi, car tu es morte, tu sais. Et quand je me réveille, un manque m'étreint, une tristesse qui a la forme des tenailles dans la boîte à outils. Le rêve est un cheval au galop, rien ne l'arrête. Il ne connaît pas la route, mais la route le connaît. » Voilà, voilà le genre de poème que vous pourrez découvrir dans le numéro 171 de Décharge, dont je suis fier de dire qu'il est notre partenaire. Et je vous propose à présent d'écouter la chronique mensuelle de Jean Antonini, consacrée comme tous les mois au haïku.
Je vais essayer aujourd'hui de vous faire sentir, toujours avec des haïkus de Mathieu Bachot, quel était l'esprit du haikai à cette époque au Japon, l'ère Genroku. C'est la seconde moitié du XVIIe siècle, la classe des commerçants, des bourgeois explose et la vieille poésie très codée de l'aristocratie japonaise devient soudain poussiéreuse. Les trois écoles de haïkai dont j'ai parlé la dernière fois se développent. 585. Hatsu Shigure Sarumo Komino o Oshigenari. Première averse d'hiver. Même le singe voudrait un petit manteau de paille. Ce hoku ouvre un des renga, poèmes enchaînés, les plus connus de l'école de Basho, le manteau de pluie du singe. Dans la poésie chinoise et japonaise classique, le cri du singe évoque le chagrin et les difficultés du voyageur solitaire. Il faut se représenter un voyage de l'époque, à pied ou à cheval. Dans un lexique du renga de 1476, établi par Kaneyoshi, le singe est associé aux feuilles d'arbre, aux cris, au fait de mouiller ses manches en pleurant, à une gorge dans la montagne, à la tristesse. Le poème de Basho semble suivre ces associations de la poésie classique. Averse d'hiver et singe suggèrent tout cela, mais par une torsion typique du haïkai, Basho fait du singe un personnage humain qui désirerait, comme le voyageur, un manteau de paille, mais un petit manteau à sa taille. C'est là l'humour du haïkai qui apporte un point de vue nouveau dans la poésie. Première averse d'hiver, même le singe voudrait un petit manteau de paille. Voici un autre haïkai qui se montre peut-être davantage irrévérencieux vis-à-vis de la thématique classique de la poésie japonaise. 521. Tsukikahana ka toedo shizui no hibiki kana. S'interrogeant sur le raffinement de la fleur ou de la lune, quatre ronflements. Les deux premières lignes mettent en scène explicitement le questionnement à propos de deux objets poétiques des plus traditionnels. La fleur, hana en japonais, c'est premièrement la fleur de cerisier, sakura. Elle symbolise le printemps, le renouveau, la légèreté, la beauté éphémère. C'est un des éléments les plus profondément ancrés de la culture au Japon. Ensuite, sans doute est-ce la lune, Tsuki. Le plus souvent, cette pleine lune d'automne qui apparaît bas sur l'horizon et semble un vaste disque lumineux. Au Japon, soit au printemps, soit à l'automne, on se rend dans certains lieux favorables pour contempler les cerisiers en fleurs ou la pleine lune d'automne, en buvant évidemment du saké ou du Beaujolais pour célébrer la nature. Alors, la troisième ligne du poème, quatre ronflements, exprime carrément l'idée de se moquer de cette beauté poétique classique, littéralement de s'asseoir dessus en ronflant. S'interrogeant sur le raffinement de la fleur ou de la lune, quatre ronflements. Terminons avec le haïku le plus connu de Basho. 266. Furuikeya kawazu tobikomu mizu no oto. Vieil étang, une grenouille plonge, bruit de l'eau. Les deux premières lignes de ce poème mettent en scène deux objets poétiques contradictoires. Furuike, vieil étang, porte des connotations diverses, d'hibernation, d'immobilité, alors que la grenouille, kawazu, est un objet du printemps, le mouvement d'une vie nouvelle. Ces deux lignes peuvent suggérer la vie nouvelle que tente d'apporter le haïkai dans la vieille tradition poétique du Japon. Mais c'est la troisième ligne, « Bruit de l'eau », « Mizu no Oto », qui pose ici le pied né typique du haïkai, car la grenouille est un élément poétique traditionnel de la poésie japonaise, associé à l'eau claire des cascades, aux fleurs jaunes de Kereya japonica, le corette, à l'appel amoureux comme l'exprime ce waka, poème en cinq lignes du Kokinshu, une anthologie datant de l'année 905. Kawazu naku ide no yamabuki shirinikeri, hana no sakari ni awamashi mono o. À ide, où chantent les grenouilles, les fleurs jaunes du corette sont déjà fanées. Si seulement j'étais venu quand elles étaient en fleurs. L'association grenouille-fleurs jaunes du corette est donc une très vieille histoire quand Basho compose ce haïku et décide d'évoquer en ligne 3 « Mizu no Oto », le bruit de l'eau, une expression qui n'a alors rien de poétique. Ainsi, ce haïku contribue-t-il à redonner une vie nouvelle à la grenouille poétique japonaise Kawazu. Vieil étang, une grenouille plonge, bruit de l'eau. À la prochaine fois.
À la prochaine fois, cher Jean Antonini, qui nous dévoile jour après jour, ou plutôt quinzaine après quinzaine, les arcanes du haïku. Voilà, nous arrivons presque au terme de cette émission, car il nous reste encore à entendre et à goûter la chronique, toujours pleine d'humour, de notre ami Jean-Claude Touzeil, poète qui vient d'obtenir le prix Georges Perros, un prix très important, pour lequel je l'interviewerai dans la prochaine édition de La Route Inconnue. En attendant, la chronique de Jean-Claude Touzeil, je vous dis quant à moi, excellente fin de journée à l'écoute de nos programmes et à bientôt sur La Route Inconnue.
Bonjour. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. J'ai sélectionné trois poèmes de Christophe Jubien dans le dernier numéro de Décharge. Les voici. Urgence. Elle fouille dans mon cerveau à la recherche d'un début d'idée, mais ne trouve rien qui vaille. Elle regarde par la fenêtre. Un oiseau passe dans le ciel gris, trop au large pour être sifflé. Alors, elle revient vers moi, plus impérieuse que jamais. Je lui demande de se calmer, de revenir plus tard, mais elle insiste, s'affole, prétend qu'elle perd les os. C'est pourtant pas sorcier, elle voudrait juste s'allonger sur une feuille blanche et faire son petit. Après, elle s'en ira, promis, sur la pointe des pieds, mon envie de poème. Dans un éclair. Dehors, un enfant joue, il ne grandira pas, se transformera peu à peu en homme. Il apprendra un métier, une femme lui fera une place dans son lit et un enfant naîtra de leur étreinte distraite, qu'ils regarderont jouer, 10 ans après, par la fenêtre, plein d'angoisse et se donnant la main. Midi moins le quart, le petit ver, tiré de terre par un bec acéré, découvre le soleil en même temps que la mort. Jaillissement de la lumière, ce poème est dédié à François de Cornière. Chez Pépé et Mémé, il y avait cette porte en bois au fond d'un long couloir obscur. Chaque fois qu'on sollicite mon avis sur une vie après la mort, la porte s'ouvre en grand sur un jardin d'été. Voilà, c'était trois poèmes inédits de Christophe Jubien, extraits. enregistré de petits coups de balai autour d'une pâquerette. Et bon, comme d'habitude, je vous lis un de mes poèmes. Celui-là est extrait des Jardins du bout du monde, édition Corpus. Lettre. Cher Pimprenelle, par la présente, je vous envoie une pensée géante de Suisse avec de la barbe de capucin, un sachet de choux de Chine, une pacifique roquette et une boule de neige pour vous lancer dans le jardinage. De la graine d'immortel pour garder votre beauté, un soupçon d'encolie parce que vous n'êtes plus là, des gypsophiles, des nigelles et des abutilons, des alices et des crapaudines, rien que pour leur joli nom. Un petit gris de renne ainsi que de l'amour en cage et un myosotis, parce qu'on l'appelle aussi « Ne m'oubliez pas ». Je vous prie d'agréer, cher Pimprenelle, mes plus distingués clématites. Signé « L'œillet de poète ». Voilà, au revoir.
Us down.